Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et le bac, cette année, comment ça se présente? À peine mieux que l'an dernier. Les épreuves de spécialité sont prévues en mars, mais personne n'est prêt. À cause du Covid, les profs demandent leur report. Et c'est l'une des revendications de la grève de demain dans toute l'éducation, massivement suivie en primaire, contre les protocoles de Jean-Michel Blanquer, qui semble avoir perdu la cote au gouvernement. Et de l'école au grand âge, comment s'occupe-t-on du handicap en France? Deux invités pour en parler à 8h20.
Oui, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et la conseillère départementale de Corrèze, Claude Chirac. Elles viennent toutes deux nous parler de la force des différents. Changer de regard sur le handicap, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Et le standard vous est ouvert, 01 45 24 7000.
Taxer les non-vaccinés, ça c'est la dernière mesure annoncée par le Québec. Une contribution santé pour les 10% d'adultes qui refusent le vaccin. Dans ce journal aussi, un nouveau pôle judiciaire en France dédié au cold case, la disparition prochaine des tickets de caisse dans les magasins. Et les Français parlent aux Français quand Axel Bauer rend hommage à la voix de Radio Londres, c'était son père.
France Inter.
75% de grévistes demain dans le primaire et en maternelle et la moitié des écoles fermées. C'est un syndicat qui donne les chiffres et se félicite de la plus forte mobilisation depuis 20 ans. Une grève contre la gestion du Covid à l'école, mais qui s'étend aussi au collège et au lycée, où le SNES réclame le report des épreuves de spécialité du bac au mois de juin. Prévue en mars, elle compte pour un tiers de la note finale. Encore faudrait-il, Sonia Princey, avoir tenu le programme.
Pour les élèves de terminale, la pression monte. Ceux qui suivent la spécialité sciences économiques et sociales, par exemple, doivent étudier 7 chapitres pour passer l'épreuve du mois de mars. Ils devraient en avoir vu 5 en ce mois de janvier. Or, 7% des enseignants seulement sont dans les temps, selon une enquête de l'APSES, l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales. Benoît Guyon en est le coprésident.
Ces épreuves arrivent beaucoup trop tôt dans l'année. Les élèves ne vont pas être préparés. Alors, non seulement les programmes vont devoir être finis très rapidement, les contenus vont être survolés, mais d'autre part, on a eu très peu de temps pour entraîner les élèves à ces épreuves. Plus de 70% des professeurs n'ont pas pu faire d'entraînement en conditions réelles, ni de dissertation, ni d'épreuve en 4 heures.
Les absences pour Covid perturbent les enseignements, comme le confirme Anne, professeure pour la spécialité histoire-géo-géopolitique.
On assiste effectivement à des absences perlées, en fait, c'est-à-dire des élèves qui parfois vont être absents 5 jours sur une semaine, et puis au bout de 5 jours, on va en avoir 2 de plus qui vont être absents. Ça entraîne un décalage pour le suivi normal des cours. Par rapport à ma progression personnelle, je suis un peu en retard parce que j'ai eu le Covid, ce qui a entraîné un arrêt de travail d'une grosse semaine pour moi, et ce qui m'a fait perdre 6 heures de cours, c'est quand même beaucoup.
Plusieurs syndicats réclament un report de ces épreuves de spécialité au mois de juin.
Et ce sont bien tous les syndicats de l'éducation qui appellent à la grève demain, soutenus par la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves. Pas contre le virus, comme a dit Jean-Michel Blanquer, ce qui les a passablement agacés, mais contre la politique de leur ministre, qui les déboussole avec ses protocoles sanitaires changeants et sa volonté absolue de maintenir les écoles ouvertes. Jean-Michel Blanquer, jusque la chouchou de l'Élysée, qui semble avoir perdu la cote jusque dans le gouvernement. Maxence Lambrec, il est de plus en plus fragilisé.
Aucun suspense, je ne suis pas candidat à ma propre succession, a-t-il récemment lâché en privé. Jean-Michel Blanquer est apparu résigné devant le bureau exécutif de La République En Marche lundi soir, conscient de toutes les difficultés engendrées. Vous savez, ces protocoles, ce n'est pas moi qui les invente, s'est-il justifié en substance. La Direction Générale de la Santé, le Haut Conseil, la cellule interministérielle de crise tiennent la plume. Blanquer démission, entend-on parfois au ministère de la Santé où le ras-le-bol est aussi perceptible. Un jour, peut-être, il reconnaîtra que les écoles participent à la propagation du virus. Sa relation distante avec Olivier Véran n'a pas facilité les choses ces dernières semaines. Arbitrage tardif, difficile, communication approximative. Jean-Michel, à peu près, le surnomme une partie de l'exécutif. Combien de fois a-t-il dû rétro-pédaler ? Dernier exemple, fin décembre, sur Inter.
Pour revenir à l'école, il faudra pas seulement avoir présenté une fois un test, mais au moins 2 fois à plusieurs jours d'intervalle. Et cet intervalle, nous sommes en train de le travailler.
2 heures plus tard, son ministère est obligé de revenir sur ses propos. Emmanuel Macron n'a pas apprécié l'annonce du protocole la veille de la rentrée dans un journal payant en ligne. On ajuste au plus près des chiffres, on n'a pas choisi la facilité, admet-il. Si j'étais vraiment impopulaire chez les profs, je ne serais plus là aujourd'hui, confie le ministre, qui aura, quoi qu'il arrive, battu un record record de longévité à l'éducation nationale, réformer le primaire, le lycée et laisser, quoi qu'il en coûte, les écoles ouvertes.
Maxence Lambrec, à l'hôpital, presque 4000 patients sont soignés en réanimation ce matin. 368 000 personnes ont été testées positives hier. L'Île-de-France bat des records d'incidence. Un francilien sur 25 a été contaminé au cours des 7 derniers jours. Et l'OMS estime que plus de la moitié des Européens pourraient avoir été contaminés par Omicron d'ici 2 mois. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle en termes d'immunité de la population. Les autorités sanitaires européennes et américaines pensent que le monde pourra ensuite peut-être vivre avec le Covid.
En attendant, il est 8h06. Certains tablent, Florent, sur l'emmerdement maximum des non-vaccinés.
Le Québec en a même fait sa principale stratégie après avoir annoncé l'interdiction de la vente d'alcool et de cannabis à ceux qui refusent le vaccin à partir de la semaine prochaine. Le gouvernement veut désormais les taxer, comme l'explique le Premier ministre québécois François Legault.
On travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner. C'est pas vrai que ce 10%-là de la population va venir nuire aux 90% parce que il y a des conséquences sur notre réseau de la santé. C'est pas à l'ensemble des Québécois à payer pour ça.
Voilà, une taxe dont le montant doit encore être déterminé. Il sera significatif, annonce déjà le gouvernement québécois. Et puis le feuilleton Djokovic continue. Le joueur non vacciné reconnaît plusieurs erreurs. D'abord, il s'est trompé, dit-il à son arrivée à Melbourne, en disant n'avoir pas voyagé dans les 2 semaines précédentes alors qu'il est allé en Espagne. Ensuite, il s'excuse, ou presque, d'avoir donné une interview à l'équipe le 18 décembre alors qu'il était contaminé au Covid. Une erreur de jugement. Djokovic qui risque toujours l'expulsion de Melbourne avant l'ouverture de l'Open d'Australie.
Aux États-Unis, Florence, c'est une réforme crucial que Joe Biden veut faire passer au Sénat.
Oui, pour harmoniser les conditions de vote de tous les Américains. Pour le moment, chaque État édicte ses propres règles. Or, les États républicains du sud du pays font tout pour entraver le droit de vote des Afro-Américains qui penchent pour les démocrates. Le président est donc allé dans l'un de ces États, la Géorgie, pour défendre son projet, Sébastien Paour.
La Maison-Blanche a choisi les terres de Martin Luther King pour défendre sa loi sur le vote des minorités. Joe Biden rappelle d'abord que la Géorgie est en première ligne depuis les années 60 pour défendre la démocratie. Mais il précise aussi que depuis un an, 19 États, dont la Géorgie, ont déjà adopté 34 lois qui rendent le vote plus difficile, notamment pour les minorités. Il y a donc urgence à les contrer avec les 2 textes fédéraux qui arrivent au Sénat. Il faut choisir la démocratie ou l'autocratie, la lumière ou l'ombre, la justice ou l'injustice. Je sais où je me situe, je ne céderai pas, je ne tremblerai pas. Je défendrai votre droit de vote et notre démocratie contre tous les ennemis étrangers et oui, nationaux. La question c'est donc, quelle sera la position du Sénat ? Joe Biden se dit prêt à contourner la règle qui exige 60 voix au Sénat pour mettre un texte au vote et à voter à la majorité simple, pari risqué. Les démocrates ont 51 voix contre 50 aux républicains et il lui faut toutes ces voix démocrates pour faire adopter ces textes alors qu'au moins un élu centriste pourrait ne pas le suivre. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Après la réunion États-Unis-Russie lundi à Genève, qui n'a abouti qu'à la promesse de nouveaux contacts entre Russes et Américains, les rencontres continuent sur le dossier ukrainien. Avec cette réunion OTAN-Russie, cette fois à Bruxelles, l'OTAN perçue comme une menace par Moscou qui refuse absolument son élargissement à ses frontières. On en reparle avec Pierre Aski juste après ce journal. Des magistrats exclusivement chargés des cold cases, les affaires non élucidées qui souvent s'enlisent avec le temps. Nous ne sommes pas aux États-Unis mais en France, où 3 juges d'instruction vont désormais s'y consacrer au tribunal de Nanterre. Un pôle spécialisé qui va tout de suite hériter d'une pile de dossiers, a expliqué le ministre Éric Dupond-Moretti à Ariane Grissel.
À l'instant où je vous parle, il y a 241 dossiers qui n'ont pas été élucidés. C'est 241 familles, 241 victimes à qui il faut apporter une réponse. Il y aura la possibilité, quand on a le sentiment que plus rien n'est possible, de transférer ces dossiers au pôle nouvellement créé. Ce transfert pourra se faire à compter d'un délai de 18 mois sans résultat. Il suffit de regarder les affaires récentes où on a trouvé un certain nombre de solutions. C'est quoi ? C'est l'acharnement d'un juge d'instruction, la collection d'informations, c'est une centralisation de toutes ces informations, c'est une coordination. Et c'est pour ça que ce pôle, il était absolument nécessaire.
Et parmi ces 241 dossiers en souffrance, 68 procédures de crimes en série. Changer sa chaudière faire remplacer ses fenêtres, isoler ses combles pour tous ces travaux qui évitent la déperdition d'énergie. L'État veut simplifier les démarches des particuliers. Le service France Rénov', opérationnel depuis début janvier, sera officiellement inauguré aujourd'hui. France Rénov', c'est un site internet, mais aussi 450 guichets répartis sur le territoire. Sandy Dauphin est allé se renseigner dans l'un de ses bureaux en région parisienne.
Quel type d'isolation choisir? Comment s'y retrouver dans le maquis des aides? Ou trouver une liste d'artisans certifiés? Les particuliers sont demandeurs sur la rénovation énergétique de leur logement, explique Sandrine Conrat, conseillère à l'espace France Rénov' de Meudon.
Les gens viennent essentiellement au départ pour nous solliciter sur les aides financières. Nous, on va leur apporter des conseils à la fois sur les aspects techniques de leur projet, les orienter un peu sur les priorités de travaux. En premier lieu, c'est l'isolation de la toiture, des murs, des fenêtres. Ensuite, la ventilation. Et en dernier lieu, adopter un mode de chauffage qui soit performant.
Les foyers les plus modestes, qui vivent souvent dans les logements les moins bien isolés et chauffés, bénéficient d'un accompagnement et d'aide renforcée à la brossée de l'Agence nationale de l'habitat qui chapeaute ce dispositif France Rénov'.
Aujourd'hui en France, on estime qu'il y a à peu près 4,8 millions de passoires thermiques, donc des logements qui consomment beaucoup trop d'énergie. Parmi les logements qui consomment le plus d'énergie, on constate qu'il y a aussi des personnes qui sont modestes et très modestes. Elles ont besoin de pouvoir bénéficier d'un service public, un service de référence qui apporte un conseil neutre, gratuit et qui va leur permettre d'engager les travaux dont ils ont besoin.
À Meudon et ses alentours, proche banlieue parisienne, 60% des bâtiments ont été construits avant le choc pétrolier de 1974, à une époque où les économies d'énergie n'étaient pas une priorité.
Pour préparer vos travaux, l'adresse du site c'est france-renov.gouv.fr. Et s'il vous reste du budget après votre chantier, vous aurez peut-être envie de vous faire plaisir. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. Et dans les magasins, vous l'aurez peut-être constaté, on vous demande de plus en plus si vous voulez vraiment votre ticket de caisse. Parce qu'à partir de l'an prochain, tickets, relevés de carte bleue et bons d'achat ne seront plus systématiquement imprimés. C'est la loi anti-gaspi. Mais va-t-elle vraiment nous simplifier la vie, Agnès Soubiran?
Vous avez acheté un pantalon et de retour chez vous, problème, ce n'est pas la bonne taille. Comment faire si vous n'avez pas le ticket de caisse?
On ne rembourse pas, mais il y a les échanges.
Jacqueline, gérante d'un magasin à La Défense.
Parce qu'en plus, ici, on fait pas mal de détaxes aussi, avec le ticket, bien sûr, c'est très important.
Échange, détaxes, garantie, le ticket de caisse est aujourd'hui la seule preuve d'achat et l'assurance que l'on a payé le prix affiché, notamment lors des paiements sans contact qui représentent aujourd'hui plus de la moitié des achats. Pascal Barlet, de l'UFC Que Choisir.
Très souvent, quand un commerçant tape le prix sur le terminal de paiement, vous ne voyez pas le prix qu'il tape. Donc quand il vous donne la facturette de votre carte bancaire, eh ben vous avez la certitude qu'il a tapé le bon prix.
Les solutions pour l'heure envisagées sont l'envoi de la facture par SMS, par mail ou sur l'espace personnel d'un compte client. Mais cela pose alors des questions de protection des données personnelles et de fracture numérique. Jean-Michel Chavanas est le délégué général de Mercatel, association spécialisée dans les moyens de paiement.
Les modifications qu'il faut réaliser d'évolution des systèmes d'information et des systèmes d'encaissement pour pouvoir faire ces développements et puis les déployer avant le 1er janvier 2023. Franchement, c'est pas gagné.
Les clients, eux, semblent déjà avoir pris le pli. Les deux tiers de ceux à qui l'on pose la question ne veulent plus du ticket.
Voilà, quant aux soldes, comme d'habitude, ça dure un mois jusqu'au 8 février. Enfin, son tube a presque 40 ans, l'inoubliable Cargo de nuit d'Axel Bauer, qui sortira un nouvel album au printemps. Mais comme un avant-goût, voici déjà, ici Londres, un premier morceau consacré à son père, le résistant Frank Bauer, disparu en 2018. Il était la voix de Radio Londres. Les Français parlent aux Français. C'était lui, Mathieu Culeron.
Les Français parlent aux Français.
Après 8 ans d'absence, Axel Bauer revient avec un single qui porte le nom de son futur album, Radio Londres, un hommage à son père, l'une des voix françaises de la résistance.
Mon père voulait faire un disque avec moi et qu'il soit un hommage à la résistance. Donc l'idée est partie comme ça, légèrement. Et puis Boris Bergman a fait un super texte où il a sorti cette phrase qui est très drôle, qui dit « En d'autres temps, on était plus résistants » et la chanson était née avec cette phrase qui résonne avec notre époque, je trouve.
Résistant de la première heure, le père d'Axel Bauer est sélectionné pour sa voix qui correspond à une fréquence particulière.
Il avait été choisi parce qu'il avait une voix un peu médium et qui passait au-dessus du brouillage qu'envoyaient les Allemands pour empêcher les Français d'écouter Radio Londres. Donc, mon album que j'ai intitulé Radio Londres, justement, parle de cette résistance. Alors, il y a différents types de résistance. Il y a des résistances aussi à ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore aujourd'hui à travers la pandémie. Mais pour moi, Radio Londres, c'est les ondes de la liberté, c'est les ondes de l'espoir, c'est la voix française.
Axel Bauer qui sera en concert avec ce nouvel album le 15 novembre prochain.
En d'autres temps, on aime.
Ici Londres, parole signée Boris Berman, le génial parolier d'Alain Bachung.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre, le pays se réveille dans la grisaille.
Et oui Nicolas, avec cet anticyclone qui s'étale sur toute l'Europe, la masse d'air s'assèche, mais les nuages bas se sont formés quand même en fin de nuit et les brouillards sont nombreux, parfois givrants, comme dans le centre-est, le nord-est ou dans la vallée de la Garonne. Et dans le sud-ouest, on a toujours 8 départements en vigilance crue, malgré la décrue qui s'amorce, de la Gironde à la Haute-Garonne. Quant à la perturbation, eh bien, elle s'est coincée avec de la Bretagne au Pays de la Loire à la Normandie en donnant des bruines. Ailleurs, vous pourrez voir le soleil se lever, surtout en montagne, sous un mercure bien bas. Et c'est dans le Doubs qu'il fait plus froid. Moins 16 à Grand-Combe-Châteleux, moins 8 à Brive. Il fait moins 7 au Puy-en-Velay, moins 6 à Épinal, moins 4 à Bergerac et Marignane. 0 à Paris, 1 petit degré à Ajaccio, mais 10 à Cherbourg.
Et c'est plus ensoleillé sur les trois quarts du pays cet après-midi.
Et oui, après la dissipation de ces grisailles, le soleil sera de retour, excepté en Alsace, dans le Val-de-Saône, à la région lyonnaise et autour de la vallée de la Garonne, où les grisailles seront tenaces et le vent va souffler en Méditerranée. En revanche, le ciel va rester bouché, mais sans pluie, de la Bretagne au Pays de la Loire, au Hauts-de-France, sous un mercure un peu bas pour la saison. 1 petit degré à Saint-Étienne, 3 à Strasbourg et Grenoble. Il fera 4 à Montauban, 5 à Bourges, 6 à Paris, 8 à Bayonne, 10 à Nantes comme Bordeaux et Montpellier. Vous aurez 12 à Quimper comme à Perpignan, Porto Vecchio et 15 à Toulon.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. France Inter, 8h17.